Elle a disparu depuis jeudi matin à Vivonne, dans la Vienne, où se trouve Agathe, 28 ans. Ça fait plus de 72 heures que les gendarmes autour de Poitiers et de Vivonne sont tous mobilisés pour tenter de la retrouver, Dominique. C'est son père qui a donné l'alerte.
Oui.
Quelle piste de travail et de quels éléments disposent les enquêteurs? C'est toutes les questions qu'on se pose ensemble, Dominique.
Oui, absolument. Avec une enquête qui va évoluer, bien sûr, on va moins rechercher Agathe sur le terrain. On va plus rechercher, c'est la police judiciaire maintenant qui va travailler, qui elle était, sa vie, est-ce qu'elle a pu faire une mauvaise rencontre, voilà. Tout ça, c'est l'évolution d'une enquête en 72 heures.
Avant de vous présenter nos invités, je vous propose de retrouver Pauline Sarafi, qui est à Vivonne avec nous, l'une de nos envoyées spéciales de BFM TV. Pauline, on aimerait comprendre ce matin, les recherches se poursuivent, toujours aucune trace d'Agathe. Quel est le dispositif sur place? Est-ce que c'est plus réduit? Est-ce que c'est plus concentré?
Oui, le dispositif, il est restreint. On ne parle plus que d'une quarantaine de gendarmes. Ils étaient une cinquantaine déjà hier soir, loin des 110 gendarmes mobilisés ces deux derniers jours. Parmi ce dispositif-là, ces deux derniers jours, il y avait également une soixantaine d'habitants qui avaient tenu à se joindre aux recherches pour épauler les gendarmes, eux qui connaissaient très bien les zones qui étaient fouillées. La zone de recherche, d'ailleurs, elle aussi a été restreinte hier, plus de 100 km carrés ont été passés au peigne fin. Aujourd'hui, ces zones de recherche, elles se ressentent vers des zones vraiment ciblées. Les gendarmes parlent notamment de fouiller ces cours d'eau, les multiples rivières qui jonchent les villages alentours. Pour ça, eh bien, les gendarmes partent désormais par petites équipes. On ne verra plus de grands ratissages comme on a pu en voir hier. Et d'ailleurs, nous avons rencontré un des coureurs qui a participé aux recherches hier. Je vous propose de l'écouter. C'était au micro de Dorine Jarnias.
Il était 9h et puis je suis parti avec la gendarmerie et puis un groupe de marcheurs. On a sillonné une quinzaine de kilomètres au nord de Vivonne pour malheureusement rien trouver. On a mis à peu près 3 heures. On a fouillé tout, on est revenu par le clan, on a tout fouillé et puis en fait, compte pour rien. Très touché, oui, et puis on se met à la place de la famille, c'est surtout ça. Je connais pas Agathe, mais je pense que ça doit être. C'est infernal comme attente. Même dans les chemins, c'est très. Les chemins qui sont très très isolés, très escarpés. On a toujours un peu l'appréhension de rencontrer quelqu'un.
Voilà, lui faisait partie donc de la soixantaine d'habitants qui ont participé aux recherches. Il y avait également le club de footing auquel appartient Agathe. Et ce matin, tous ceux avec qui nous avons discuté, eh bien, nous ont partagé le fait qu'ils espéraient tous avoir de nouvelles informations qui pourraient éclaircir un peu le mystère autour de cette disparition.
Pauline Sarafi en direct de Vivonne avec Inès Médé-Dognon pour BFM TV. Je vais vous présenter nos invités. Avec nous, Mélanie Bertrand, grand reporter du service PJ. Je suis obligée de commencer avec vous, Mélanie. Jacques Fombonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Bonjour, bienvenue à vous. Et puis Bernard Denis Larocque, expert judiciaire auprès de la Cour de cassation, spécialiste de la communication radioélectrique. Alors, on va commencer de manière un peu simple aujourd'hui. Les heures tournent, l'épilogue est toujours en suspens. Mélanie, j'ai l'impression qu'on est rentré désormais dans une autre chronologie, une autre temporalité.
On est rentré dans une phase plus judiciaire qu'avant. En fait, quand une personne disparaît, c'est les 48 premières heures qui sont les plus importantes et c'est là que les gendarmes ou la police, quand ils sont en zone police, mettent tous les moyens nécessaires. On met un maximum d'hommes sur le terrain, des chiens, des hélicoptères, des drones, des plongeurs, parce que on sait que si une personne est blessée quelque part ou a eu un accident, a fait un malaise, il faut aller vite pour la retrouver. Malheureusement, ça fait 3 jours maintenant que Agathe a disparu et effectivement, ce qui devait être ratissé a été largement ratissé. Hier encore, on voyait qu'il y avait une centaine d'hommes sur le terrain avec des citoyens aussi qui sont venus prêter main forte, l'armée de terre. Ça n'a rien donné. Donc maintenant, la phase judiciaire qui, elle, a commencé aussi depuis le début. Bien sûr que les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers n'attendent pas que la phase opérationnelle se termine. Dès le début, on entend les proches, on auditionne les parents, la famille, les amis, on exploite les vidéos de surveillance. Il y en a là par les chemins par lesquels elle est passée. Cette phase, elle va maintenant s'intensifier. Moins de recherches sur le terrain. On met l'accent sur les fouilles judiciaires, enfin l'exploitation des données judiciaires. Hier, le procureur disait, on a reçu une trentaine d'appels à témoins qui peut-être peuvent donner une indication importante. Il faut exploiter tout ça, recouper, voir si ça peut coller et peut-être qu'un témoignage va émerger, va être vérifié, va donner une piste sérieuse.
Oui. Cette histoire du portable, on sait qu'elle est partie avec son portable, le portable qui
c'est précieux est localisé. Déjà qu'elle ait son portable, c'est une information pour les enquêteurs.
On ne sait pas si elle a une montre connectée en plus du portable, mais Vous nous disiez l'autre jour, Bernard Denis Larocque, donc, que ce portable, pour qu'il nous dise des choses, il fallait que tout autour, on ait des éléments. Racontez-nous ça, parce que c'est passionnant, cette technologie au cœur de l'enquête, racontée par vous, expert.
Ce portable, c'est, pour moi, c'est un peu une énigme, parce que on peut localiser un portable de deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle le bornage. Votre portable est uniquement portable, il n'y a aucune application dessus, mais si vous voulez pouvoir téléphoner avec, il faut qu'il se borne. Et le bornage, c'est l'indication de la borne fixe à laquelle le mobile se rattache, parce que le mobile ne communique pas directement les uns avec les autres. Or, dans cette région, il y a des bornes, en gros, tous les 4 kilomètres. Par conséquent, on ne peut définir la position de ce mobile par bornage au mieux qu'à 4 kilomètres près. Et même 4 kilomètres, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'est jamais sûr qu'il va se borner sur la borne la plus proche.
Mais 4 kilomètres, c'est beaucoup ou c'est peu, selon vous,
Pour moi, c'est beaucoup, parce que le procureur a dit qu'on avait la dernière localisation de son portable, on l'avait à 250 mètres près.
Comment on fait pour savoir qu'il est à 250 mètres et pas à 4 km?
Ben justement, j'en sais rien. Et je sais pas comment il a pu trouver ces 250 mètres. Parce que l'autre méthode pour localiser un portable, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'il a à l'intérieur une app, ou plusieurs qui la géolocalise.
Par exemple,
si elle prend une photo, la photo va être géotaguée. Donc, on sait exactement où la photo a été prise. Mais là, 250 mètres, au contraire, c'est pas précis du tout. La géolocalisation, on l'a à quelques mètres près.
Ça veut dire que le procureur, c'est des choses qu'on ne sait pas?
C'est mon sentiment, en tout cas.
D'accord.
Jacques Fonbonne, c'est normal de faire de la rétention d'infos sur ce genre d'enquête, de toute façon, et c'est précieux.
Oui, c'est la procédure inquisitoire, c'est le secret de l'enquête. Les gens qui participent directement à l'enquête, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale, sont tenus au secret de l'enquête. Mais c'est une vraie question judiciaire et juridique, parce que l'enquête doit être secrète, parce qu'effectivement, il faut permettre aux forces de police, aux gendarmes, il y a toutes les unités d'investigation de pouvoir travailler, mais en même temps, la justice doit être rendue de façon transparente. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, la phase de l'enquête est inquisitoire et secrète, et ensuite, lorsqu'il y a des parties civiles, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mis en examen, la procédure s'ouvre en quelque sorte, puisque les gens qui sont concernés par les investigations ont accès, à ce moment-là, aux pièces de l'enquête.
Mélanie, on a combien de pistes sur la table? Parce que là, le procureur reste prudent, il dit que tout reste ouvert, mais tout reste ouvert, c'est combien de pistes?
Il y a plusieurs pistes, 3 pistes majoritaires. Soit on est sur une disparition volontaire, alors ça peut paraître surprenant, elle part en short et t-shirt faire un footing, mais peut-être qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, qu'elle avait planifié un départ. On sait, nous, qu'elle avait un anniversaire au moment où on se parle ce week-end, qu'elle avait prévu d'acheter des cadeaux pour une amie. Donc, a priori, on n'est pas sur quelqu'un qui décide de tout larguer, de partir, mais voilà, tout est possible. Il y a la piste, évidemment, de l'accident, de la chute. Est-ce que quelqu'un l'a bousculée en voiture? Est-ce qu'elle-même a pu faire un malaise, tomber dans un endroit totalement escarpé que les secouristes, que les gendarmes seraient passés à côté? Ça paraît compliqué aujourd'hui, mais on sait, avec les récentes affaires criminelles, que tout est possible. Et puis, il y a la piste criminelle, donc, qui évidemment est celle que l'on redoute tous, d'une mauvaise rencontre, de quelqu'un qui l'embarque avec elle, qui lui fait du mal. Pour l'instant, vraiment, le parquet de Poitiers communique très peu, fait des communiqués, ne répond à aucune autre question. Et vraiment, on nous dit que toutes les hypothèses sont étudiées. Évidemment, nous, on suit ça heure après heure sur BFM TV. Ça ne fait que 3 jours. On sait que des enquêtes peuvent rentrer dans une temporalité beaucoup plus longue.
Dans une affaire comme celle-ci, Jacques Fonbonne, on recherche en fonction de la personnalité du ou de la disparue. On recherche pas de la même façon le petit Émile, Agathe.
Alors évidemment.
Ou un adulte.
Évidemment.
Comment on s'adapte?
Alors à la réflexion de ce que l'on dit, je pense qu'il y a effectivement un resserrement du dispositif, parce que je pense que les gendarmes ont purgé, on va dire, l'hypothèse la plus évidente, qui est celle d'un accident. Agathe aurait glissé, elle se serait fait mal, elle serait tombée dans un endroit qui est habituellement son parcours de sport, d'où l'intérêt d'avoir avec elle les gens qui courent.
Voilà, qui ont fait ce même parcours.
Voilà, qui ont fait ce même parcours. Et c'est évidemment la première hypothèse. Elle a glissé, elle s'est cassée une jambe, elle s'est fait mal. Et donc, on va chercher immédiatement, dans la perspective de trouver quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui va vouloir se signaler. Je suis là, je me suis fait mal, et à ce moment-là, on va le retrouver assez facilement. Ensuite, pour répondre directement à votre question, la personnalité de la personne qui est en fuite va permettre de serrer certaines hypothèses.
Qui est disparu, elle est en fuite.
Pardon, qu'est-ce que j'ai dit?
qui est en fuite.
Pardon, excusez-moi, qui a disparu, bien entendu. Oui, va se modifier à l'aune de sa personnalité. Mmh. On a avec Agathe une personne qui est en arrêt de maladie.
Fragile.
Voilà, qui est fragile psychologiquement. Donc, peut s'ouvrir une piste de volonté d'attenter elle-même, d'attenter à ses jours, mais qui à ce moment-là ouvre de façon extrêmement complexe les champs d'investigation. Mmh. Si l'on veut mettre fin à ses jours, par définition, on va pas se mettre sur un itinéraire où on va venir vous chercher. On n'a peut-être pas envie que vos proches, que les gens vous trouvent et vous trouvent morte. Donc, on va peut-être se dissimuler dans un endroit qui va rendre les recherches extrêmement compliquées. Et puis, il y a la piste criminelle, évidemment. Mais pour le moment, on est toujours dans une enquête pour recherche des causes de la disparition. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments criminels qui inciteraient le procureur de la République à continuer en crime flagrant ou à solliciter l'ouverture d'une information criminelle.
Pour remonter ses habitudes de vie, parce que là, les enquêteurs effectivement vont un peu plonger dans le passé, dans la vie quotidienne même de cette jeune femme, là encore, le téléphone est un outil précieux parce qu'il va donner des indices sur ses habitudes, son quotidien.
Ah bah, le téléphone donne des tas d'indices, mais il faut le retrouver.
On peut le lire à distance ?
Non, on ne peut pas le lire à distance. Ce qu'on peut faire sans avoir le téléphone, c'est essayer de saisir les fichiers des applications auxquelles elle a l'habitude de se connecter. Donc des fichiers de Google, des fichiers de choses comme ça. Mais non, lire le téléphone à distance, c'est impossible. Et là, depuis le temps, les batteries sont sûrement mortes maintenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est arrêté d'émettre. Ça voudrait donc dire que soit la batterie était déjà morte, soit il est tombé dans l'eau.
À quel moment, comment ça se passe? Les enquêteurs là donc recherchent elle son téléphone. Donc on fait des réquisitions auprès des opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, Free. On leur dit vous bloquez les gelées. Comment ça se passe? Parce que là on avait ce matin Frédéric qui nous expliquait au Wall, notre juriste qui nous expliquait voilà il y a cet endroit où son téléphone a borné 250 mètres. On va évidemment chercher tous les téléphones qui ont borné autour. Oui. Peut-être que si quelqu'un lui a fait du mal, il avait son téléphone sur lui. Donc on va et comment ça passe? On dit aux opérateurs vous gelez les données, vous arrêtez tout. Comment ça se passe?
Oui, on saisit les fichiers. Tous les opérateurs ont un service de saisie judiciaire. C'est très facile.
Des progrès parce que je me souviens de plusieurs années, de plusieurs enquêtes où là ça prenait des mois et des mois. Je pense qu'on
n'est pas sur la même temporalité. Maintenant c'est beaucoup mieux rodé. C'est beaucoup mieux rodé parce qu'en plus c'est facturé. Alors je pense que ça les motive un peu plus.
C'est facturé cher.
D'accord. Ouais. Mais c'est un outil précieux.
C'est facturé
cela dit.
Les fadettes, c'est-à-dire chaque réquisition.
Fadettes, facture détaillée.
Facture détaillée.
Je ne veux pas dire que c'est la motivation première, mais c'est certainement de nature à améliorer la diligence.
On donne de l'argent à l'opérateur pour qu'il communique les informations du téléphone de son client.
On lui achète ses informations.
Okay. Agathe a disparu jeudi. Vous pensez qu'ils savent déjà qui était sur zone au moment à l'heure du déjeuner?
Normalement, ils ont dû saisir. Ils ont dû demander à l'opérateur la liste des téléphones qui ont borné, non seulement sur la borne.
Et on l'a déjà, là, deux jours après.
Oh bon, ça va très vite maintenant.
Oui, ça va très vite. Tout est numérisé.
Alors, ils ont la liste des 06 ou 07. Oui. Ils ont les noms. Et ils ont les adresses.
Oui.
Donc ils vont remonter.
Ils peuvent croiser avec les fichiers.
Mais le problème, c'est que le téléphone s'est arrêté d'émettre tout près d'une borne, justement. Ce rayon de 200 mètres, il y a une borne dedans. Les autres sont à respectivement 3,7, 4 km et 11 km. Hein, donc c'est loin, les autres. Donc est-ce que c'est un hasard? Je n'en sais rien. Mais il ne faudra pas demander uniquement les téléphones qui bornaient sur cette borne à ce moment-là, il faut aussi demander ceux qui bornaient sur les bornes voisines. Parce que quand vous êtes tout près, vraiment, de la borne, obligatoirement, vous vous raccordez à celle-là. Mais si vous vous raccordez à celle-là, ça ne veut pas dire que vous êtes tout près.
D'accord.
Vous voyez, dès que vous êtes un peu plus loin, je vais dire à 500 mètres de la borne, vous pouvez très bien être raccordé à la borne qui est à 4 km.
Alors, bougez pas, on va passer à Poitiers, retrouver Célia Vallée, l'une de nos envoyées spéciales pour BFM TV. Célia, c'est toute la région qui est mobilisée ce matin.
Y compris le marathon de Poitiers qui avait lieu ce matin. À Poitiers, on a une vingtaine de kilomètres de Vivonne, là où a disparu Agathe. Et ce marathon se déroulait ce matin. Et c'est là que l'organisateur a eu un mot pour elle, pour sa famille. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Nicolas de Roussy.
Avant de lancer les festivités, donc je voudrais juste avoir une petite pensée pour Agathe et les recherches qui sont en cours. Et en tout cas, nous souhaitons que l'issue soit heureuse.
Une pensée émue pour Agathe, on se sent concerné.
Une étude qui grandit dans cette région parce que les questions au fil des heures sont multiples.
Oui, tout à fait. On a parlé avec des coureuses ce matin. Elles ont toutes une pensée émue pour Agathe et voilà ce qu'elles nous disent. On se sent concernée. Elle aurait peut-être aimé être là ce matin au marathon. Certaines d'entre elles pensent même à changer leurs habitudes sportives, par exemple, en partant accompagnées lorsqu'elles vont courir. En tout cas, la disparition d'Agathe, elle est dans tous les esprits depuis ce matin, pour les personnes de la région comme pour les personnes venues d'ailleurs en France à l'occasion du marathon ce matin.
Merci beaucoup Célia Vallée avec Nicolas de Roussy en direct de Poitiers. Il y a aussi une dizaine d'auditions qui ont été menées par les enquêteurs et vous le disiez Mélanie, une trentaine d'appels, une trentaine de personnes ciblées après ces appels à témoins. Qu'est-ce que ça peut donner ça?
Oui, l'appel à témoins, on l'a diffusé nous sur BFM TV et d'autres médias également dès vendredi en fait quand le parquet a donné son feu vert, on l'a diffusé tout de suite. C'était un appel à témoins qui était très complet. Oui. Il y a la photo d'Agathe, son nom, son prénom, une description physique, 1m65, corpulence très mince, sa tenue sportive. Et ça, en vrai, on a posé la question à des gendarmes. Je leur ai demandé, est-ce qu'on peut diffuser le nom de famille? Et au contraire, on nous a incité parce qu'on nous a dit, ça peut provoquer un déclic. Quelqu'un peut se dire, cette jeune femme, je la connais, je regarde dans mon téléphone, oui, je lui ai parlé il y a quelques jours, elle m'a dit ça. Ça peut donner une indication. Et puis, il y a la description physique. Peut-être qu'un voisin, qu'un proche l'a vu passer dans la rue. Peut-être qu'elle n'était pas seule quand elle est partie courir. Peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière elle. C'est autant d'éléments qui sont là, évidemment, pour provoquer, et c'est le nom, un appel à témoins. Oui. Ils ont reçu une trentaine de coups de téléphone. Peut-être des gens, on ne le sait pas, se sont présentés à la gendarmerie pour apporter des témoignages. Tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut vérifier. Il y a des témoins qui sont très importants, d'autres qui se trompent de bonne foi en étant sûr de l'avoir vu passer à tel moment, tel jour, à telle heure. C'est totalement faux. On l'a vu dans l'affaire de la disparition de Lina. Ce monsieur d'un certain âge qui était certain de l'avoir vu passer dans une voiture, faire un signe de main. Malheureusement, il s'est trompé de journée, mais ça a pris du temps aux enquêteurs de creuser ce témoignage.
Mélanie, les gendarmes sont allés au domicile d'Agathe, oui, à Poitiers. Elle loue un studio à Poitiers. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont allés chercher?
Oui, parce
chez
que
elle.
On est dans le cadre d'une disparition en forêt. Les chiens de la gendarmerie, les chiens qui peuvent pister sa trace, ont besoin d'avoir une odeur.
Les vêtements, donc.
Des vêtements. Mmh. C'est ça qu'ils sont allés chercher, notamment au domicile d'Agathe à Poitiers, des vêtements qui ont la trace olfactive, l'odeur de la jeune fille. Ils ont fait sentir aux chiens et ensuite les chiens les ont peut-être guidés dans la forêt. Ça, on l'ignore. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et ils sont allés chercher au domicile directement d'Agathe.
Et ça, c'est une odeur, Jacques Fonbonne, qui va être gardée dans des bocaux au cas où pour la suite. Comment est-ce qu'on continue à garder ces éléments?
Alors, non, parce que éventuellement, on va rechercher un second vêtement. En fait, le maître de chien prend un vêtement dont on est certain qu'il est appartenu à la personne disparue. C'est assez amusant à voir. Il place une chaussure ou un sous-vêtement, par exemple, à l'intérieur d'un sac en plastique. Il enferme le museau du chien quelques secondes, évidemment, dans le sac en plastique, de façon à ce que le chien prenne une grande inspiration et s'imprègne de l'odeur. Il enlève le sac, va chercher. Et le chien part comme une balle, avec des résultats qui sont extraordinaires. Il y a deux types de chiens qui sont principalement utilisés. Il y a le Saint-Hubert et le Malinois. Vous savez, le Saint-Hubert.
C'est la SPA qui parle.
Absolument. Le Saint-Hubert, c'est plutôt, vous voyez, c'est le chien de Donald et de Dingo. C'est un très grand chien. Ils ont un flair extraordinaire, qui surpasse celui de toutes les autres espèces canines. Mais il est lourd, donc il est fatigué relativement vite. Et il est assez difficile à éduquer. Il a son caractère. Le Malinois a des performances qui sont un petit peu moins évidentes, mais on est dans des conditions climatiques qui sont plutôt bonnes. Mm-hmm. Il est très nerveux, très endurant, et donc on va souvent préférer le Malinois.
Christian Flèche nous racontait tout à l'heure que hors studio que parfois on utilisait l'odorologie quand quelqu'un dans une voiture disait je ne conduisais pas. On parle d'affaires criminelles. Je conduisais pas la voiture, j'étais pas dans la voiture. Ah oui. On fait sentir le type au chien, enfin le suspect au chien, on le lâche dans la voiture et on voit s'il va sentir du côté du siège conducteur ou c'est quand même assez extraordinaire.
Les chiens sont capables d'emmagasiner 11 odeurs. Oui.
11 odeurs temps, différentes.
Voilà, et de rechercher en quelque sorte 11 personnes différentes.
Ah oui. Mais une odeur, ça se perd au bout de combien de temps?
Alors, ça dépend. D'abord, si les conditions météorologiques sont très sèches, l'odeur ne se diffuse pas. Ensuite, s'il y a un orage, l'affaire du petit Émile, par exemple.
Oui, mais là, il y a eu de la pluie, par exemple. Alors, entre hier et aujourd'hui.
La pluie va évidemment disperser énormément les molécules que le chien va chercher. Idéalement, c'est un temps comme aujourd'hui sur Paris, c'est-à-dire humide, gris, avec une humidité forte dans l'air, mais sans pluie.
Est-ce qu'on peut imaginer que les gendarmes soient au domicile d'Agathe, aller chercher aussi autre chose? Par exemple,
des supports numériques,
une brosse à dents, quelque chose qui aurait pu, non, une brosse à dents, quelque chose qui pourrait donner son ADN si on retrouvait un jour, pardon,
je vais
très loin.
Oui.
Je suis dans un scénario de si un jour on retrouvait un corps ou.
Ils ont saisi des objets aussi.
Oui.
Sans qu'on ait plus de précision, mais on peut imaginer qu'ils sont allés chercher, bien sûr, de l'ADN notamment et peut-être. Comme le disait Pauline, des supports numériques pour essayer d'investiguer tout son passé.
Parce que Mélanie, si elle n'est pas fichée, au FNAEG, elle n'était pas, on imagine, on n'a pas son ADN.
Non, non, mais on l'a forcément avec une brosse à dents, avec une brosse à cheveux, avec des éléments qui contiennent de l'ADN. Et puis, tous les éléments de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les éléments qui pourraient permettre de reconstituer un passé immédiat, une embrouille, un rendez-vous. Une mauvaise rencontre à la suite d'un rendez-vous pris sur un site ou simplement un échange téléphonique. Et puis, les mails, les choses qu'elle peut envoyer et qui pourraient justifier soit un passage à l'acte, soit une fugue, soit quelque chose qui déjà commencerait à orienter les enquêteurs.
La suite, Mélanie, on le rappelle, c'est une autre temporalité, peut-être un peu plus étirée.
Oui, c'est les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers qui sont en train d'exploiter depuis le début, mais a fortiori d'autant plus aujourd'hui, maintenant que les recherches sur le terrain a priori n'ont rien donné, exploitent les différentes hypothèses, continuent de recevoir sans doute des appels de citoyens qui peut-être ont un élément important. Tout ça prend du temps. S'il y a un élément important, on reçoit la personne, on va l'auditionner le temps qu'il faut pour et ensuite vérifier surtout son témoignage sur le terrain. Tout ça prend un temps. On est dans une phase nouvelle. On aimerait évidemment retrouver au plus vite cette jeune femme, ça peut durer malheureusement un certain temps.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir partagé ce plateau avec nous. Restez dans un instant, affaire suivante ouvre un nouveau dossier, celui de Bertrand Cantat, condamné à Vilnius en Lituanie pour le meurtre de Marie Trintignant, c'était en 2003, libre 5 ans après. Comment avons-nous décrypté ce drame à l'époque, avec quelles lunettes? Et aujourd'hui, est-ce qu'on aurait la même lecture? Autopsie d'un féminicide non reconnu, ne bougez pas, on revient dans un court instant. C'est un documentaire qui fait réfléchir sur notre manière de voir les choses et de les appréhender. En juillet 2023, Marie Trintignant meurt après une violente dispute avec son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat, rockstar de Noir Désir de son état. Dans ce documentaire enquête diffusé sur Netflix, tout s'éclaire. D'abord, retour sur ce drame et sur cette déflagration médiatique avec Elisa Tran.
Marie Trintignant, entre la vie et la mort.
La presse la prend par une dépêche, tombée le 27 juillet 2003. La comédienne Marie Trintignant est dans le coma, après une violente dispute avec son compagnon, Bertrand Cantat.
Le couple était-il sous l'emprise de l'alcool, de la drogue?
Est-ce que c'est un accident, une dispute qui a mal tourné?
C'est un accident, oui.
Mais on était loin de la vérité.
Les reportages s'enchaînent pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé dans cette chambre d'hôtel de Vilnius, où l'actrice terminait le tournage d'une série sur Colette, dirigée par sa mère, Nadine Trintignant. Sur le plateau, son amant de l'époque, le chanteur star du groupe de rock Noir Désir, vient lui rendre visite régulièrement. A priori, une relation fusionnelle entre deux artistes. La réalité, elle, est plus sombre.
Bertrand est jaloux, possessif et exclusif.
Et cette nuit d'été caniculaire, Bertrand Cantat n'aurait pas supporté un message reçu par Marie Trintignant. Il la tabasse. 19 coups portés notamment au visage. L'actrice décède 6 jours plus tard. Soif de romance ou tout simplement absence du terme féminicide à l'époque, les médias s'emparent de la version livrée par le rocker. Un crime passionnel entre deux amants alcoolisés.
Je ne la reconnaissais pas. Elle m'a mis un coup de poing au visage, elle m'a frappé.
Condamné à 8 ans de prison pour homicide involontaire, Bertrand Cantat passera finalement 4 ans derrière les barreaux avant de reprendre sa carrière.
Alors avec nous en plateau, j'accueille Michèle Fine, journaliste indépendante, réalisatrice de documentaires. À l'époque, vous couvriez cette affaire pour le journal télévisé de TF1. Et puis Pauline Rongier, avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous intervenez dans des dossiers de violence conjugale et dans ce qu'on appelle aujourd'hui des féminicides. D'abord, ce qui frappe dans ce documentaire en 3 épisodes, co-réalisés par Zoé Debussière, Anne-Sophie Jeanne, Karine Dufour et Nicolas Lartigue, c'est effectivement la relecture de ce drame, la réécriture avec nos yeux grand ouverts aujourd'hui. Et vous, Michel Fine, vous avez l'honnêteté de dire que vous n'avez pas vu, en tout cas que vous avez cherché à comprendre, certes, mais que ça vous a échappé d'une certaine manière. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez compris à l'époque et qu'est-ce que vous n'avez pas vu ?
Alors, les réalisateurs m'ont demandé de me remettre dans l'esprit de l'époque.
Ah, oui.
Et ça, c'était pas évident, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait sur les féminicides, mais à l'époque, ce mot n'existait pas, on l'utilisait pas. Donc, moi, à l'époque, je n'utilise pas du tout le mot de drame passionnel, mais je vois, comme tout le monde, cette histoire, sans la comprendre vraiment. Au début, on a la version de Cantat, on n'a que la version de Cantat, d'ailleurs, hein. On n'a jamais, évidemment, la version de Marie Trintignant. Et on a la version qui raconte un accident, des coups. Lui, il dit qu'il donne des baffes,
qu'elle est tombée
peut-être sur un radiateur. On en reste à la version du radiateur jusqu'à l'autopsie.
C'est accablant pour Bertrand Cantat, ce documentaire. Et il y a un matériau qui est très précieux, c'est ces deux auditions devant les magistrats lituaniens où le chanteur de Noir Désir tente de poser des mots sur ses gestes. Mais les versions évoluent. Et là, dans l'extrait qu'on a vu dans le sujet d'Elisa Tranin, il y a une inversion de la charge. Est-ce que c'est classique, ça ?
Ça, c'est classique. C'est une méthode d'auteur, un marqueur de la violence conjugale, si vous voulez. Les auteurs de violence conjugale sont toujours dans le déni. C'est jamais eux, c'est toujours l'autre, c'est toujours la femme. Mmh. Et quant à ceux qu'il explique, dans les deux auditions d'ailleurs, hein, il explique que c'est elle qui l'a frappé en premier. Enfin, il fait 1m86, elle fait 1m66. On a l'impression que c'est lui la victime.
Vous, Maître Rongier, quel regard vous portez sur ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous frappe ?
Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on a une inversion des culpabilités.
Exactement.
Où en fait il arrive à se victimiser. Hein, donc on le voit là dans les extraits d'audition, il pleure, il a l'air abattu, etc. Il explique que effectivement c'est elle qui commence, qui donne le premier coup, ou alors qu'elle était dans un état d'hystérie. Hein, on a pu voir ce mot dans le documentaire, ou que ses mots à elle étaient encore plus agressifs que des coups. Et puis il y a un dénigrement qui est d'ailleurs relayé par la presse sur l'idée qu'elle aurait une relation incorrecte avec son ex-mari. Enfin, il essaie de faire valoir ça, ces messages qu'elle reçoit. Et donc ce dénigrement de la victime, c'est aussi quelque chose qui participe de ce mécanisme d'inversion des culpabilités.
On a effacé de notre langage ce vilain terme. On l'a pris dans le lancement, mais on l'a mis entre guillemets, on l'a pris volontairement, mais on l'a effacé de drame passionnel. Oui. Parce que drame passionnel, ce qui veut absolument rien dire,
absolument.
C'était déjà excusé quelque part l'acte, c'est-à-dire il y a de la passion, donc on peut tuer par passion.
On peut tuer par passion, sauf que ces histoires-là, c'est pas des histoires de passion, c'est pas des histoires d'amour. On se trompe quand on parle d'amour. C'est des histoires de possession. Et Cantat, comme tous les auteurs de violence conjugale, pour moi, c'est un auteur de violence conjugale comme les autres. C'est quelqu'un qui possède, qui est d'une jalousie extrême. Quand il y a ce déferlement de violence au moment qui part d'un texto.
Oui, de Samuel Benchetrit.
De Samuel Benchetrit, qui est le compagnon de Marie Trintignant, qui a un film avec elle. Il lui envoie un texto sur la promo du film et il termine par ma petite Janice. Ça veut dire, c'est pas très grave, ma petite Janice.
Et ça le met dans une rage folle.
C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui contrôle son téléphone portable, qui lui envoie des textos tout le temps, qui est d'une jalousie extrême. C'est tous les marqueurs de la violence conjugale.
Et alors, ça, souvent, c'est, on se permet de regarder le téléphone de l'autre. De ne pas respecter son intimité, de commencer déjà comme
Alors, tout ça, ce sont des actes matériels de ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle coercitif, et c'est vraiment une infraction qu'on attend en tant que professionnel des violences conjugales, qu'on attend dans le droit français, que soit reconnu le contrôle coercitif qui est exercé par l'auteur des violences conjugales sur sa victime. Mais pour revenir, effectivement, on n'est pas sur un crime d'amour, mais sur un crime de propriétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et cette histoire de crime passionnel, alors au départ, on avait ce qu'on appelait les circonstances atténuantes de crime passionnel, ce qui ont été abolies en, je crois, 75. Mais effectivement, en fait, c'est resté quand même dans les mentalités. On le voit sur la peine qui est vraiment bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être prononcée. Et puis aujourd'hui, même si on a beaucoup évolué sur, justement, qu'on ne parle plus de manière officielle de crime passionnel, mais on voit qu'il y a eu un déplacement et qu'en fait, c'est autrement aujourd'hui que c'est introduit dans les affaires, dans les procédures de féminicide. On a de plus en plus d'experts qui vont retenir une altération du discernement de l'auteur du meurtre conjugal.
D'accord.
Donc pas une
pour l'amoindrir,
hein,
en fait.
On ne dit pas qu'il est irresponsable, mais que son discernement est altéré sous le coup de l'émotion. Or, qu'est-ce que c'est d'autre que cette idée d'altération sous le coup de l'émotion ? C'est le crime passionnel déguisé qui arrive dans la procédure.
Alors après, mettre quelqu'un qui rentre chez lui le soir, qui n'est pas forcément quelqu'un de violent, qui trouve sa femme au lit avec quelqu'un d'autre, qui se jette sur les deux, qui tue l'un des deux, en l'occurrence qui va tuer sa femme. Est-ce qu'il n'y a pas là une altération du discernement ? Est-ce que la personne qui fait ça et qui ne devrait pas le faire, hein, bien sûr, qui va se livrer à cette violence parce qu'émotionnellement,
mais là,
il se passe quelque chose, ouais. Vous voyez, ça serait un féminicide.
Ok, mais deux choses. Premièrement, là, vous décrivez les choses comme si le féminicide, c'était un peu un orage dans un ciel bleu. Oui, bien sûr, comme si c'était un orage dans un ciel bleu. Tout va bien, il n'y a jamais eu de violence, il n'a jamais été violent.
Il y a souvent des précédents, c'est ça que vous dites.
En fait, c'est l'aboutissement d'un continuum de violence qui dure sur des années, où il y a des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Voilà. Et c'est l'issue, en fait. C'est le moment où elle part. Et voilà, enfin, faut pas le voir comme un acte isolé.
Alors, il y a un autre personnage central dans ce documentaire, et je voudrais qu'on ne l'oublie pas dans la vie de Bertrand Cantat, c'est la mère de ses deux enfants, Christina Radi, qui s'est suicidée, on le rappelle, en janvier 2010 à Bordeaux. Après, d'ailleurs, un message bouleversant qu'elle a laissé à ses parents sur son répondeur, où elle expliquait que Bertrand était fou. C'est un appel au secours.
C'est un appel au secours, c'est un message fondamental, c'est un message de 7 minutes 33 secondes qu'elle laisse sur le répondeur de ses parents, 6 mois avant de se donner à mort, avant de se pendre, où elle dit « Les événements qui se sont passés en 2003, donc Vilnius, Marie Trintignant, sont en train de se reproduire en encore plus grave. J'ai échappé au pire plusieurs fois. Qu'est-ce qui peut être pire que la mort de Marie Trintignant ? Bertrand est fou, j'ai failli perdre une dent, il m'a cassé le coude. » Donc elle décrit un déferlement de violence. Il y a une enquête au moment de sa mort, on écarte le crime, on privilégie la piste des suicides. Il va y avoir deux plaintes qui vont être déposées en 2013 et 2018.
Par
une avocate, Yael Melloul, qui est l'avocate de l'ancien compagnon de Christina Radi. Elle avait un nouveau compagnon. Oui. Ces plaintes vont être classées sans suite. Et cette avocate, Yael Melloul, va persister et faire voter une loi sur le harcèlement moral dans le couple qui mène au suicide, qui est un peu la loi Christina Radi. Elle l'a faite voter en pensant à Christina Radi. Pour autant, les faits concernant la mort de Christina Radi sont prescrits aujourd'hui, donc il n'y a plus d'enquête possible. Bon, moi, je trouve que le destin de cette femme, qui était magnifique, qui est venue au procès sauver Cantat...
Pour dire qu'il n'avait jamais levé la main sur elle.
Elle l'a sauvé, il n'a eu que 8 ans, enfants, parce qu'elle a dit qu'il n'avait été jamais, il n'avait jamais été violent avec elle, et cette femme a été la victime d'après. Bon,
vous auriez aimé être dans ce dossier ? C'est une question que je me posais en préparant l'émission.
Ah bah oui, dans le dossier, que ce soit le dossier qui concerne...
Christina Radi ou le clan Trintignant.
Oui, bien sûr, parce que déjà, je me bats avec force dans chaque dossier de féminicide, et je trouve que c'est vraiment... Il y a un tel travail à mener, quoi, parce que c'est vrai que c'est impensable, c'est intolérable de dire qu'on en est là encore aujourd'hui, et qu'à cause, justement, de problèmes de connaissances, en fait, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène-là. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, en fait, au moment des procès, qui doivent être dites aux jurés. Enfin, souvent, je leur dis aux jurés, attendez, là, quand il vous dit que c'est par amour qu'il l'a tué, imaginez, parce que intellectuellement, ça peut être séduisant comme version. Mais je leur dis, imaginez là, vous êtes amoureux d'une femme, vous lui mettez un coup, elle a un énorme bleu, vous lui en mettez un autre, puis après elle saigne, et là vous continuez, elle vous supplie d'arrêter, vous continuez encore, vous lui tirez les cheveux. En fait, là, quand ils voient les choses de manière aussi concrète, ils disent, non.
Vous dites peut-être au moment du procès, moi je dois au moment du verdict. Vous avez dit tout à l'heure, 4 ans, on revient à Bertrand Cantat, 4 ans derrière les barreaux avant de reprendre sa carrière, ça c'est la fin du documentaire. Vous avez dit, 4 ans, c'est pas cher payé, c'est vrai que c'est pas cher payé. 25 ans pour Jonathan Daval, 4 ans pour Bertrand Cantat. Ouais.
Michel, vous y repensez souvent à ce drame de Vilnius.
Un problème d'impunité au niveau de la qualification qui est retenue au départ, souvent qui est inférieure à ce que ça devrait être. Un problème d'impunité au niveau de la peine qui est prononcée, et puis après au niveau de la peine qui est effectuée. Puisque là, on a une libération anticipée, avec un juge qui part du principe qu'il ne recommencera pas, alors que c'est quelque chose de systémique, les violences conjugales et de...
La preuve.
Puis après, un problème aussi d'impunité sur la réaction sociale, parce que finalement, cette espèce de réhabilitation sociale massive et disproportionnée, ça participe de son sentiment d'impunité.
Merci. Un dernier mot, Michel. Vous, qu'est-ce que vous gardez de ce drame de Vilnius ?
Moi, j'ai l'impression qu'on avait un aveuglement à l'époque qui était l'aveuglement par rapport au féminicide. On n'a pas vu à l'époque qu'on avait affaire à un féminicide. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un même aveuglement concernant le cas de Christina Radi et concernant les affaires de suicide forcé, et qu'on ne reconnaît pas encore assez cette autre violence qui est faite aux femmes, qui les mène à se suicider pour échapper à la violence, qui est le suicide forcé.
Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Le mâle au féminin, Monique Olivier, épouse Fourniret. J'accueille avec plaisir notre invitée, Agnès Grossmann, journaliste et autrice de cet ouvrage aux éditions des Presses de la Cité, avec un livre-enquête saisissant sur la personnalité de Monique Olivier. D'abord, cette femme extraite de cellules en début d'année dans le dossier Lydie Logier. Comment Monique Olivier collabore-t-elle avec la justice et sur quel dossier? On voit ça avec Elisa Trane.
L'ex-femme de Michel Fourniret a été extraite de sa cellule pendant 3 jours en janvier dernier. Monique Olivier était alors interrogée sur le meurtre de Lydie Logier en 1993 dans l'Orne.
Pour le moment, elle participe, c'est-à-dire elle répond aux questions, on refait les plans, on analyse les cartes, on revient sur les lieux et puis elle répond aux questions qui sont posées.
La dernière fois qu'elle était apparue devant des caméras, c'était en 2023, jugée pour les enlèvements, viols et meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parich et Estelle Mouzin. Dans ses courtes prises de parole, Monique Olivier avait formulé des regrets mais aussi révélé toute sa monstruosité.
Je crois que la cruauté du couple... elle est connue, elle a été démontrée. Effectivement, de temps en temps, on en a des exemples. Comment imaginer qu'un enfant puisse rester 24 heures ou plus sans manger, jeté au fond d'une camionnette par un froid glacial? C'est que ce ne sont pas des enfants, ce sont des choses, ce sont des objets de satisfaction de leurs besoins.
Elle était le catalyseur de mes crimes, disait d'elle l'ogre des Ardennes. Liés par un pacte criminel, Monique Olivier et Michel Fourniret chassaient leur proie ensemble. Elle est aujourd'hui la seule détentrice des secrets du tueur en série. Une participation plus active de sa part permettrait à de nombreuses familles, à commencer par celle de Cécile Valin, de connaître enfin la vérité. Monique Olivier a été placée en ce début d'année sous le statut de témoin assisté dans ce dossier vieux de 28 ans.
Voici donc le mal au féminin. Monique Olivier, épouse Fourniret. J'accueille Agnès Grossmann, journaliste et autrice de cet ouvrage.
Merci à
publié
vous.
Aux Presses de la Cité. Première question, pourquoi ce titre, le mal au féminin? Il se conjugue, le mal, effectivement, en la personne de Monique Olivier.
C'est-à-dire qu'elle le représente bien, c'est vrai. Et ce qui sous-tend, je trouve, tout le dossier Monique Olivier et Michel Fourniret, c'est sa difficulté à concevoir le mal au féminin. Monique Olivier, elle aidait son mari... Elle faisait monter les jeunes filles dans la voiture. Et les jeunes filles sont montées dans la voiture parce qu'elles n'envisageaient pas qu'une femme puisse commettre le mal. Quand elle a été arrêtée, les policiers ont d'abord pensé qu'elle était sous emprise parce qu'ils n'imaginaient pas qu'elle puisse être complice au point où elle l'a été. C'est d'ailleurs plus ou moins elle qui s'est révélée comme telle, par orgueil aussi. Mmh. Moi aussi, j'ai fait ma part. Et en fait, tout le temps, c'est quelque chose qui sous-tend tout ce dossier. J'ai voulu essayer de... Oui, de voir. Moi aussi, je me suis posé la question, parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qui, alors qu'elle est condamnée à perpète, qui disent mais est-ce qu'elle était sous emprise? Est-ce qu'elle était vraiment mauvaise? Et j'ai voulu vraiment savoir quelle avait été sa part dans tout ça et donc son histoire.
Alors tout démarre avec les mots de Francis Narbar, avocat général au procès de Charleville-Mézières en 2008. Racontez-nous les mots qu'il avait choisis dans son réquisitoire et à ce moment-là, ça fait tilt et vous vous dites, Monique Olivier, elle a des clés.
Il dit. Elle a trahi la cause de toutes les femmes et de toutes les mères. Il n'a pas dit ça de Fourniret, il a trahi la cause des hommes et des pères. Et je me suis dit, mais pourquoi? Quelle est donc cette cause? Et bon, après, j'ai évidemment parlé avec lui, il me dit, c'est une mère. Une mère, ça donne la vie, ça ne la reprend pas. Eh bien, si.
De toutes les femmes et de toutes les mères, parce que quand elle est aux côtés de Fourniret dans la voiture pour rassurer les jeunes filles... qui vont monter dans la voiture, elle a aussi une ou deux fois son fils sur ses genoux.
Absolument.
Hein? Qu'est-ce qui rend Agnès cette femme aussi tellement différente des autres? Parce que personne, aucune femme ne ferait ça. C'est Monique Olivier qui l'a fait. Qu'est-ce qui la rend différente des autres?
Mais moi, je pense qu'elle n'est pas si différente de beaucoup de femmes et de beaucoup
c'est
de
effrayant.
Gens.
Si vous dites ça, c'est effrayant.
Oui, c'est effrayant. C'est-à-dire que je pense que Monique Olivier a une espèce de vide en elle qui peut être comblée par quelqu'un comme Fourniret.
C'est de l'ennui?
Il y a aussi de l'ennui, mais l'ennui vient aussi du vide qui est en elle. C'est quelqu'un qui a été mal investi par ses parents, parce qu'ils étaient pris par ailleurs, notamment par une grand-mère handicapée, omniprésente, qui a vraiment pesé lourdement sur cette famille et sur la relation de sa propre mère avec Monique Olivier, son enfant. Et elle a grandi avec un grand vide en elle. Elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas de support réel. Et donc, c'est quelqu'un qui est une disciple formidable. Mmh. Il se trouve qu'elle a rencontré Michel Fourniret, mais elle aurait pu rencontrer Raël et faire partie de sa secte. Elle a ça de différent, pas de toutes les femmes. Elle a
Ce qui fait aussi que on le voit, par exemple, au Rwanda, ou on le voit dans la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de gens qui, tout d'un coup, on leur donne l'autorisation de tuer, et ben ils tuent. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé.
Alors, question à l'envers. Elle a rencontré Fourniret, elle aurait pu rencontrer Raël. Est-ce que si Fourniret avait rencontré une autre femme que Monique Olivier, il aurait pu en faire la même chose?
Eh bien, non, puisque Fourniret a été marié deux fois avant elle. Et les deux fois, quand il s'est fait toper, parce qu'une première fois, il est arrêté parce qu'il il tripote une petite fille, donc sa première femme s'en va tout de suite. La deuxième fois, c'est déjà plus grave, il a fait des tentatives de viol, mais aucune n'a véritablement abouti. Et il a ramené, en gros, les jeunes filles parfois chez elle, donc il n'a tué personne. Pareil, sa femme le quitte immédiatement. Et ce qui est frappant avec Monique Olivier, c'est qu'elle reste. Elle reste, et j'ai lu toute leur correspondance, et ce qui est vraiment étonnant, parce qu'on a dit qu'ils avaient conclu un pacte. Oui. Or, moi, je trouve que quand on lit les lettres, c'est pas si évident que ça.
Non, non.
Et en fait, on se rend compte surtout qu'il avance. Alors, il avance à petits pas, mais à un moment donné, il avance à grands pas, il dit quand même des choses.
Mais il avance parce qu'il est autorisé, d'une certaine manière.
Il avance parce qu'elle le laisse avancer.
Exactement.
Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est à quel point elle ne lui pose jamais de limites. Et donc, elle le rend surpuissant. Et elle le rend d'autant plus surpuissant qu'elle l'aime comme ça.
Alors, autant à Charleville-Mézières, au procès en 2 minutes, on avait l'image d'une femme assez effacée quand même, qui avait envie d'être un peu à l'écart. Autant à Nanterre en 2023, moi j'ai pu assister à l'audience où elle est face à son fils en visioconférence. Et là, il y a un autre visage de Monique Olivier qui apparaît très dur. Il y a cette femme fragile, molle, indifférente, et puis il y a cette mère très dure qui va faire la leçon à son fils et qui lui dit « Retourne chez André si ça te plaît », qui est la personne, qui est son ancien compagnon, qui l'a aidé d'ailleurs, qui a hébergé, on le rappelle, Selim, après que ses deux parents sont partis en détention. Il y a deux visages.
Elle lui dit même « Qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» alors qu'il a une perruque bleue. Oui. Et tout. Enfin, c'est comique, c'est tragique.
Mais c'est cruel en fait, c'est très cruel.
Ce qui est étonnant surtout, c'est comme elle n'est pas atteinte. Elle voit son fils, il y a très longtemps qu'elle ne l'a pas vu, on pourrait penser qu'elle va être émue. Et non seulement elle n'est pas émue, mais comme il lui fait un peu la morale, il lui dit « Allez, de toute façon, plus personne ne t'attend dehors, dis aux parents ce que tu sais. Mais ça suffit, ça suffit, mais laisse-moi tranquille. » Et là, effectivement,
elle sort d'elle-même.
Et on voit ce qu'elle a pu être sans doute pour Michel Fourniret. Et d'ailleurs, tout le monde, même en prison, tout le monde dit que c'est une femme de tempérament, de caractère. Mais c'est ça aussi, elle joue, elle surfe sur cette idée que les femmes sont forcément sous emprise, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était le cas dans le premier procès, c'était sa défense.
Exactement.
J'étais sous emprise. Là, c'était un petit peu aussi sa défense, c'est toujours un peu sa défense, sauf que là, elle était toute seule dans le box, donc il a bien fallu faire avec.
Agnès, dans ce qu'ils ont fait tous les deux, ce qu'on sait déjà et tout ce qu'on peut soupçonner encore, est-ce qu'elle y a pris du plaisir comme lui?
Alors moi, j'en suis convaincue. Je suis convaincue que Monique Olivier porte en elle une perversion. Et c'est aussi cette perversion qui fait qu'elle l'aide à enlever les petites filles. Michel Fourniret est quand même plutôt un impuissant. Elle l'aide à se mettre en condition pour violer les petites filles. Donc vraiment,
elle est plus que complice.
Elle fait des trucs sexuels avec lui pour le mettre en condition.
Absolument. Moi, je pense même qu'elle est. Ce sont des viols par procuration qu'elle a fait.
Merci beaucoup, Agnès Grossman. Je rappelle votre ouvrage, Le mal au féminin, aux éditions des Presses de la Cité. Merci à tous de nous avoir suivis. Dimanche prochain, vous retrouvez Ronald Guintrange et Laurent Valdiguier, nouveau duo. Nous, on s'éclipse, mais on se retrouve très vite ici à BFM TV.
Bon week-end.
Tout de suite, c'est l'après-midi info avec Julien Migaud-Millard.